retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h passé de 2 minutes. Vous le savez, dorénavant, c'est le nouvel horaire des experts. 9h30, 10h30 tous les jours en direct sur BFM Business pour décrypter l'actualité de l'économie. Aujourd'hui avec Sylvie Matera, économiste, senior advisor du cabinet de conseil d'audit Mazars. Frédéric Farah, économiste et professeur à l'Université Paris 1. Et Marcus Kerberg, avocat et professeur de finances publiques à Berlin. On va parler politique monétaire maintenant avec le départ de François Villeroy de Gallo. Ça fait plus de 10 ans, il est arrivé en 2015 à la tête de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Il a tenu jeudi dernier son dernier discours de politique monétaire. Il quittera l'institution financière le mois prochain. Et je voulais qu'on voit ensemble quel bilan vous tiriez des 10 dernières années. Alors, sur le bilan de François Villeroy de Gallo, mais au-delà de comment le monde, le paysage monétaire a évolué. Vous connaissez bien la Banque de France, Sylvie Matera, puisque vous y êtes passé. Moi, c'est là-bas que je vous ai connu il y a quelques années.
Oui, quelques années.
Déjà. Quel bilan vous tirez de ces dernières années, ces 10 dernières années?
Alors, on parle de la politique monétaire, mais c'est pas que la seule mission de la Banque de France. Et donc, si on veut regarder le bilan du gouverneur sur les 10 dernières années, il y a, dans les grandes missions, il y a la politique monétaire, bien sûr, mais qui est maintenant une politique monétaire européenne. Oui. Donc, on participe à la politique monétaire européenne. Il y a la supervision bancaire, c'est très important, la supervision bancaire. Et donc, la Banque de France exerce cette supervision en France et aussi dans le cadre de la supervision bancaire unique à Bruxelles. Et puis, il y a tout le dispositif interne qui concerne le maillage économique, la surveillance des évolutions économiques en France, avec un réseau assez dense. Et donc là, il y a eu aussi une évolution importante. En termes de politique monétaire, je pense que la France a eu une voix très écoutée au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE sur ces 10 dernières années, parce qu'on avait l'avantage d'être une voix un petit peu intermédiaire entre ce qu'on appelle traditionnellement
les colombes et les faucons.
Voilà. Donc les partisans d'une politique monétaire très dure et favorable en général à une augmentation des taux dès qu'on avait un frémissement sur le front de l'inflation, qui sont de manière traditionnelle les pays du nord de l'Europe, l'Allemagne, les Pays-Bas, et puis les partisans d'une politique plus accommodante, je dirais, et qui regarde aussi les conditions non seulement inflationniste, mais aussi les conditions de croissance. Et là, c'est plus davantage les pays du Sud qui sont plus favorables à des conditions politiques monétaires accommodantes. Donc la France a été une voie médiane pendant toutes ces années et très, très écoutée au sein du Conseil des gouverneurs.
Est-ce que la France est une voix écoutée à Francfort ou est-ce que Paris, tout comme la Bundesbank en Allemagne d'ailleurs, ne sont plus que les porte-parole finalement de la BCE qui est l'institution majeure européenne? Marcus Kerberg, Frédéric Farah et puis Sylvie.
Écoutez, la France est bien entendu très écoutée, même si, écoutez, Madame Lagarde stresse celui qui a un peu d'expertise en matière monétaire. mettre à la tête de la Banque Centrale Européenne une non-économiste...
Une avocate de formation.
Une politique, une communicante...
Ça devient un job très politique, président de la BCE.
Qui pense pouvoir expliquer tout et rien, et très certainement un expériment totalement raté.
Jérôme Powell est
aussi
un économiste.
Mais je pense qu'on devrait, dans ce contexte, rendre hommage à celui qui quitte la Banque de France. J'étais en désaccord avec lui sur les grands choix de politique monétaire. On a eu des vifs échanges de principes, mais c'est un monsieur très noble, noblesse naturelle, avec qui on arrive à avoir des amples discussions, et qui a très certainement, au sein du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, apporter l'expertise de la France qui manque cruellement à Madame Lagarde et qui a très certainement essayé de jouer un intermédiaire, un rôle intermédiaire entre les pays du Sud et les pays du Nord, pour le simplifier un petit peu. Et je tiens surtout à rendre hommage au gouverneur par ce geste très noble de quitter sa fonction prématurément pour rendre la position inaccessible à des personnages avec un profil pas très expert. Il y a un petit incident au sein de la Banque de France, la nomination de Sylvie Goulard, qui était une diplomate de formation, qui était nommée, je pense, vice-gouverneur, Ça, c'est une question...
Oui, qui a eu quelques affaires au niveau européen.
Oui, non seulement ça, préalablement, et je dirais, elle n'était pas brillante en matière de politique monétaire, mais je trouve, pour conclure, ce geste de M. Villeroy de Galhau extrêmement noble, un monsieur distingué qui va manquer à l'Europe.
Bon, il va prendre la présidence des apprentis d'Auteuil à partir du mois de juin. Ma question, c'était, est-ce que les banques nationales n'ont pas perdu la Bouba quand même, la
absolument,
Bundesbank,
absolument.
Qui est une référence au niveau européen.
Absolument.
Je trouve qu'on entend beaucoup, beaucoup moins parler
aujourd'hui. Alors, beaucoup moins pour parler tout de suite de la Bouba, comme vous dites. La Bundesbank n'est plus l'ombre de ce qu'elle a été à l'époque.
Et pourquoi ?
Un économiste en chef comme Ottmar Issing, qui vient de fêter ses 90 ans, qu'on appelle en Allemagne, à tort ou raison, Monsieur l'Euro, faisait partie de cette catégorie élitaire incorruptible de professeurs en matière de oui. politique monétaire, qui était également praticien. Donc, cette catégorie très rare est devenue... A disparu. Alors, et comme c'est la Banque Centrale Européenne qui offre les bons postes, je dirais la Bundesbank est toujours en concurrence. Donc les gens s'orientent plutôt vers la Banque Centrale. Et là, il y a un microcosme de décisionnaires que je renonce à qualifier.
Non, mais je suis un peu surpris parce que...
Vous êtes toujours surpris.
Oui, mais parce
comment est-ce que vous pouvez être surpris en étant dans une émission avec moi ? Je suis l'homme qui aime bien surprendre.
Ah bah, c'est important.
Rassurez-vous.
Et on a le droit de ne pas être d'accord.
Oui, mais c'est pour cela que je crois qu'en démocratie, c'est plutôt le dissensus que le consensus qui domine. Mais bon, ça c'est une autre question. Non, mais où je suis surpris, c'est que nous avons fait un choix politique. Nous avons voulu faire une souveraineté partagée de notre monnaie. Donc, à partir du moment que le pouvoir se déplace... Alors, je me suis toujours... méfier des englobants, c'est-à-dire les englobants, la Banque Centrale Européenne, les marchés financiers, la mondialisation. Et il faut être plus précis, parce que je dis toujours à mes étudiants, je n'ai jamais dîné ni avec la Banque Centrale, ni avec la mondialisation, ni avec les marchés financiers. Je ne les ai jamais vus dans la rue, hein, s'ils sont là, qu'ils se signalent à moi-même. Donc comment ça marche, la Banque Centrale Européenne ? C'est pas, il n'y a pas Monsieur Banque Centrale Européenne. Je veux dire, il y a un board...
Fonctionne par consensus, il faut le...
Voilà, donc il y a des débats internes de politique monétaire, il n'y a pas un Monsieur Banque Centrale qui
arrive... Des gouverneurs, on peut le rappeler d'ailleurs, bien expliquer que c'est un conseil des gouverneurs des banques nationales, et il y a un comité exécutif, un board de la BCE avec 5 ou...
Il y a les conseils des banques de la zone euro, plus des membres du fonctionnement interne de la BCE. Voilà.
Donc, conséquemment, alors je veux bien qu'on critique Madame Lagarde, mais quand on voit tous les gens qui sont là, les compétences qui sont à l'œuvre, bon, elle n'est pas tout seule, comme si elle était en train de prendre une décision tout seule dans son coin, de manière un peu délirante. Il faut quand même rester sur terre. D'autre part, que le poste soit politique, c'est-à-dire que quand on choisit celui qui a la tête une dimension politique, la monnaie, c'est de la politique, autrement. Donc forcément...
Et de plus en plus.
De plus en plus. Donc ça, c'est une chose. Donc je ne comprends pas que, alors qu'on a fait un choix il y a plus d'une trentaine d'années de déplacer le pouvoir monétaire ailleurs, de s'étonner aujourd'hui que les banques nationales font partie du SEBC, du système européen des banques centrales. Voilà. Ça, c'est... Deux, ce que je trouve intéressant quand on regarde le discours de M. Villeroy de Galhau, parce que c'est un discours qu'il faut lire, que j'ai lu, il pose des débats. Alors, il a une position pour chacun de ces débats, et je trouve que ces débats doivent rester ouverts. Son discours est structuré ainsi, il revient sur les objectifs, sur les instruments, sur l'indépendance, et il finit très joliment, avec une référence allemande avec Emmanuel Kant, puisqu'il rêve de banquier kantien, dit-il à la fin de son texte, etc. Et il dit, il y a eu toute une série de débats sur la politique monétaire telle qu'elle a été menée, est-ce que effectivement c'est suffisamment démocratique ou pas, est-ce que le mandat de la BCE doit changer, est-ce que c'est la stabilité des prix ou autre chose. Là, je trouve qu'on est dans des vraies questions. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est posé cette question, est-ce que ça doit être la stabilité ? Parce que, je rappelle, parce que souvent on fait un mauvais procès. Dans le texte, les textes européens, il n'est pas dit que la stabilité, c'est l'objectif le seul. C'est marqué objectif principal.
Oui, pas unique.
Pas unique.
Principal.
Donc ça implique une hiérarchie.
Oui.
Il a raison de poser ces questions et de dire, et ça je suis d'accord dans son discours, qu'il ne faut pas simplifier le débat. Mais il faut le garder ouvert sur le mandat, les instruments, sur la question de l'indépendance. Et la communication est essentielle. Je me souviens du très joli livre de Pierre-Noël Giraud sur la finance, où il parlait des moyens chamaniques de la politique monétaire, c'est-à-dire la manière dont les banquiers centraux communiquent. Et il disait ça en faisant référence à l'époque, quand le livre a été écrit, c'était Greenspan qui était la tête de la Fed.
Greenspan qui est incroyable.
Voilà, voilà, qui savait parler.
Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé.
Voilà. Et donc, le fait d'avoir une politique et d'avoir une communication, c'est très important parce que c'est, il disait dans ce texte, que c'est aussi important que les instruments qu'on utilise.
On appelle la forward guidance.
C'est un instrument.
C'est un instrument.
C'est un instrument.
Oui,
je pense que la discussion sur le mandat de la BCE devrait venir, est un vrai débat en ce moment. Parce que d'abord, il y a une grande, c'est vrai que la stabilité des prix, c'est l'objectif premier. Mais on a une grande différence entre la BCE et la Fed, qui sont les deux banques centrales les plus importantes. La Fed a explicitement deux objectifs. C'est-à-dire la stabilité des prix et le niveau
économique, du travail.
Le marché du travail. Ce qui n'est pas le cas pour la BCE. Et aujourd'hui, avec la situation d'inflation importée liée à la guerre entre l'Iran et les États-Unis, on va avoir une problématique d'inflation importée, mais cette situation, je pense, va avoir un impact plus important sur la croissance elle-même que sur l'inflation. Et donc, c'est pour ça que je crois que ce débat sur l'objectif...
On entend pourtant des hausses de taux, hein,
oui, on entend parler des hausses de taux, mais si on regarde juste l'inflation, je pense que ça donnerait un signal en disant on a une inflation qui est liée, temporaire ou pas, on ne sait pas, c'est lié à cette situation.
Et est-ce que c'est un choc de prix ou une inflation ?
Mais en revanche, ça a un impact dépressif, on le voit aujourd'hui, sur la croissance économique.
Croissance zéro.
Et si on avait ces deux objectifs, je pense que, si vous voulez, si on regarde juste l'inflation, on pourrait être tenté par une hausse des taux. Mais si on regarde ces deux objectifs que sont le marché du travail, la croissance et l'inflation, à ce moment-là, je pense que la tentation est moins forte compte tenu de la situation actuelle. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le débat sur le mandat serait très bienvenu.
Voilà, c'est un vrai débat passionnant.
Je pense que l'Allemagne n'a pas peur de débat, madame. Et moi, surtout pas. Mais je me permets de vous rappeler que le consentement de l'Allemagne à l'époque du traité de Maastricht a transféré sa souveraineté monétaire à une banque centrale européenne, liée à la promesse que cette banque se limite au mandat de la défense et de la stabilité des prix. Point la ligne. Alors, si aujourd'hui, il y a un débat sur la flexibilisation du mandat, sur l'élargissement du droit, que Madame Lagarde a fortement enrichi par ses discours assez dilettants, eh bien, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'indépendance d'une banque centrale sans limiter ses compétences. Une banque centrale qui, selon l'avis de Madame Lagarde et d'autres Français, veut également faire une politique écologique en préférant des emprunts verts, elle se perd complètement. C'est-à-dire le privilège que nous avons accordé, nous, les démocraties occidentales, à donner une indépendance véritable à la Banque centrale, c'est-à-dire à accepter que le principe de la légitimité démocratique ne joue pas là, dépend de cette restriction de la compétence. Mon maître et modèle, M. Ising, l'a dit, il l'a redit, et moi, son disciple, je le dis que cette indépendance, si on la considère sacrée, il faut bien la lier à une limitation du mandat. Alors, dans la réalité, le mandat de la Banque centrale a été déjà transgressé.
Oui. C'était déjà Mario Draghi.
Les achats, Mario Draghi, heureusement qu'il a fait ça.
Monsieur Draghi, il a violé.
Oui, mais il a
bien
fait.
Mais il a sauvé l'euro.
C'est ce que vous dites. Peut-être, il a tout simplement prolongé l'agonie de l'euro. L'histoire n'a pas donné son jugement sur l'euro. Ah. On verra.
Bon, Frédéric, fait un dernier mot et puis il faut qu'on avance.
Mais la gauche unie, elle
non, mais le son...
Ah, mais l'euro, c'est une force incroyable pour l'Europe.
Vous le dites, madame. Je ne veux pas le croire.
Pas tous ensemble. On laisse parler Frédéric.
Je veux dire, heureusement que Mario Draghi n'a pas cédé à un dogmatisme rigide et a compris qu'il y avait un intérêt supérieur pour l'ensemble de ses membres, c'était d'engager, effectivement, une politique que l'on n'attendait pas. Et il a pu faire en sorte que... Si on avait laissé la zone euro s'effondrer au moment de la crise des dettes souveraines, les conséquences collectives auraient été considérables. Je veux dire, c'est-à-dire que quand on s'engage dans un projet pareil, on sort pas comme si on sortait d'un bar après avoir fini une bière. Hein, je veux dire, c'est pas ça. Enfin, je veux dire, il faut être sérieux. Je veux dire, ça engage quelque chose. C'est-à-dire, ouvrir à la crise des dettes souveraines une crise supplémentaire qui viendrait de l'effondrement parce que les banquiers centraux resteraient rigides sur leur position. Mais je sais pas, c'est un suicide collectif. Je sais pas, à moins qu'on trouve que c'est bien. Le suicide collectif, c'est bien. Donc voilà, ok. Bah alors, suicidons-nous collectivement, c'est une chose.
Non, mais on aurait pu sortir la Grèce, on aurait pu sortir l'Irlande. On n'a pas besoin d'une zone euro avec ces pays-là.
D'accord. En fait, on veut une zone euro avec le mépris, en pensant que les autres pays européens.
Mais si, c'est une raison.
La manière dont la presse allemande a parlé de la Grèce dans les années 2010, c'était quand même un peu problématique.
Il y avait une forme de sanction, une volonté de sanctionner la Grèce du côté de l'Allemagne.
Non.
Je veux dire, avec un gouvernement plutôt à droite qui voulait sanctionner un gouvernement de gauche.
L'impopularité de l'Allemagne en Grèce qui a été mal compris en Allemagne, hein, parce que c'est grâce à l'Allemagne que la Grèce a pu sauver sa mise. Hein, et il faut bien quantifier les énormes sommes qui, par solidarité,
l'Allemagne et l'Europe,
a donné l'Europe pour sauver un pays qui représente 11 millions d'habitants.
2% du PIB, mais qui rembourse en avance.
Et une économie... pas essentiellement nécessaire pour l'Europe.
Mais quel berceau quand même de la culture européenne.
Pas nécessaire pour l'Europe.
Cette culture si chère à vous, cher Marc.
C'est toujours Giscard d'Estaing qui a dit « on ne dit pas non à Platon ». Voilà. Hein, mais ce n'est pas une raison de faire entrer la Grèce. Donc la Grèce fait toujours figure
d'un rembourse, elle rembourse en avance. Ils ont fait le boulot. Ça a été douloureux, d'ailleurs, les pauvres. Allez, il faut qu'on avance. Je voulais qu'on parle place financière de Paris, avec de très, très bonnes nouvelles. C'est la CPR qui nous l'indique. Près de la moitié des demandes d'agrément bancaire de la zone euro se font désormais en France, à Paris notamment. Hein, c'est la place financière de Paris. Qu'est-ce qui explique cet engouement nouveau, si je puis dire, enfin,
Nouveau, c'est...
Nouveau, je ne sais pas, mais une telle intensité. On a multiplié par 5 l'année dernière le nombre de demandes d'agrément bancaire sur la place financière de Paris.
Alors, c'est un choix qui se fait en comparaison des autres choix possibles.
D'autres grandes places. Francfort est une grande place financière.
Après
Milan.
Le Brexit, beaucoup d'établissements ont dû faire un choix puisque en fait il fallait mettre les activités européennes en Europe. Donc suite au Brexit, beaucoup de ces activités qui étaient auparavant logées à Londres, notamment tout ce qui concernait les banques d'investissement, donc les activités de marché, ont dû trouver un autre point de chute. Donc certaines se sont orientées vers l'Irlande pour des raisons de commodité de langage, parce qu'effectivement on parle anglais. Et après, les choix se sont portés vers les grandes capitales européennes. Donc, il y avait Francfort, Milan, Paris, Amsterdam. Et alors, je crois que très, très vite, le choix s'est rapidement limité à 2 places essentiellement, Francfort et Paris, pour des raisons différentes. Alors, Francfort avait l'avantage d'être la proximité avec la Banque centrale
européenne,
bien sûr, qui a non seulement la politique monétaire, mais la supervision bancaire unique, et Paris. Alors, beaucoup d'établissements, donc on a à peu près un choix moitié-moitié, mais maintenant, de plus en plus d'établissements choisissent Paris. Alors, pour quelles raisons? Donc, il y a plusieurs raisons. Enfin, j'en parle d'autant mieux que je suis au conseil d'administration d'une banque qui est en train de faire ce choix. Il y a un vivier potentiel d'employés en France qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres pays, notamment pour les activités de marché.
Oui.
Je pense que la France bénéficie d'avoir un volume d'ingénieurs sortis des grandes écoles françaises qui sont de très très bons employés pour tout ce qui est activités de marché, tout ce qui est trader, enfin tous les camps.
Oui, les fameux camps.
Les fameux camps. Ça sort essentiellement des grandes écoles françaises. Et d'ailleurs, même quand on regarde dans les salles de marché, il y a énormément de Français dans les salles de marché à cause justement du poids de l'ingénierie mathématique dans ces activités.
Reconnu.
Donc ça, on a un pool en France qui est à peu près unique en Europe. Après, il y a quelque chose qu'on oublie, mais qui fait écho à la discussion antérieure, qui est la qualité de la supervision locale. Et effectivement, la France a un superviseur qui est la CPR, qui a depuis très longtemps, développé une expertise sur ces marchés financiers, et qui est, pas à l'écoute, ça aurait une connotation négative, mais qui est très...
Non, on a le droit d'écouter le business,
qui est
de dialoguer...
Très bon, je dirais, pour avoir, été dans cette supervision française et après avoir été soumis à une autre supervision en Allemagne. La France, c'est un atout d'avoir une supervision proche, attentive. En Allemagne, c'est un peu moins le cas. Il faut dire que pendant des années, tout ce qui était instrument dérivé était encore considéré comme une activité de jeu interdite en Allemagne. Donc en fait, on n'a pas cette culture d'activité de marché en Allemagne. Et on la retrouve pas chez le superviseur, ce qui est le cas de la CPR. Et donc ça, je pense que c'est un outil aussi. Alors maintenant, la France a des problématiques, a aussi mis en place un système d'impatriés, donc on n'est pas forcément
un régime fiscal spécifique.
Mais un régime spécial spécifique pour les employés.
Par Manuel Valls, il me semble à l'époque.
Par les employés qui acceptaient de venir de Londres, à Paris, Après, il y a d'autres problèmes avec ce système parce qu'il n'est pas mobile. C'est-à-dire la personne qui vient pour son premier emploi en bénéficie, mais après, si elle veut passer de la banque X à la banque Y, elle ne peut pas emmener son traitement fiscal avec elle. Donc, ça pose d'autres problèmes. Mais ça, c'est un système qui a été aussi mis en place à Paris et qui a été un atout favorable.
Comment se porte Francfort, professeur Kerber? Comment
vit-on
cette attractivité parisienne à Francfort?
Écoutez, vive la concurrence. Hein. Tout ce que Mme Matera vient de dire est très juste et très pertinent. L'existence de grandes écoles avec ce que vous avez appelé l'ingénierie mathématique, c'est nécessaire pour les salles de marché. La France a mené une politique assez volontariste pour faire de Paris une place financière. Et dans la mesure où ça concurrence Londres, moi en tant qu'Européen, je suis en faveur. Alors, la France a également bien joué pour obtenir le siège de la European Banking Authority, qui a été transféré de Londres. Et sur ce plan, l'Allemagne, pour une fois de plus, a mal joué et n'a pas obtenu le siège de cette autorité à Francfort.
Oui, il y a la BCE quand même à Francfort.
Très certainement pas décisif.
Oui.
Mais je dirais, je regarde ce processus de migration de personnel pour les banques d'affaires de Londres à Paris avec engouement et optimisme.
Bon.
Et puis la ville de Paris offre tellement de choses. Enfin, pour les gens qui viennent à la France, c'est vrai que c'est un grand pays multiple. Moi, j'habitais 7 ans à Francfort. On trouve moins d'activité.
C'est pas tout à fait le même paysage.
On va dire.
Oui. Frédéric Farah.
Bon, plusieurs choses. Si vous voulez, ça fait partie des jolis paradoxes de notre pays. C'est-à-dire que d'un côté, on a nos problématiques, on parlait des dépenses sociales, de la dette. Et de l'autre côté, que ça soit dans cette matière ou en matière d'investissement direct à l'étranger, la France reste un pays très attractif.
Très attractif. Donc, c'est pour ça qu'il faut parler des bonnes nouvelles aussi.
Sur ces paradoxes, nous avons une main-d'œuvre qualifiée. Donc, il y a cette tendance à broyer du sombre et du noir en permanence. Mais quand même, les investisseurs étrangers, ils viennent chez nous. Les banques viennent chez nous. Je veux dire, on va quand même pas se plaindre. Et cet effort français de faire de Paris une place importante. Alors moi, je suis très attaché à l'histoire économique. Et parfois, quand je l'évoque, des années 80 à nos jours, j'évoque comme c'était il y a 110 ans, alors que c'était hier. Je rappelle que le premier effort qui avait été, enfin, pas le premier, mais l'un des efforts, rappelons-nous, la grande loi de 1984, je veux dire, qui avait été en fait conduite même par les socialistes,
socialistes français, tout à fait.
N'oublions pas, pour faire de Paris une place financière, une place boursière significative, pour pouvoir anticiper sur ce qui était en train de se passer, sur les mutations qui avaient lieu dans la finance française. Donc ça fait 40 ans, je veux dire, qu'on a fait cet effort. Et je suis toujours étonné que cette loi de 84, elle est passée par la fenêtre comme si ça avait été un micro-événement, d'essentiel.
Tout à fait.
Et je pense que c'est des événements économiques.
C'est bien de le rappeler.
Qu'il ne faut pas oublier.
Lorsque
la France a engagé...
La bourse était en deuil.
Pardon.
C'est Pierre Bérégoy.
Oui, c'est un régime socialiste qui a effectivement ouvert la
finance. Comme le régime des impatriés qui avait été présenté par Manuel Valls à l'époque à Paris Europlace.
Je suis très attaché à l'histoire économique parce que parfois nous fait oublier des choses. La CSG, c'était Michel Rocard. C'est-à-dire, il y a eu un sens du pragmatisme qui s'est fait au fil du temps et croire qu'on était dans une espèce d'idéologie fermée, rigide, c'est pas vrai. Je veux dire, les faits disent le contraire. Je veux dire, cette grande loi de 84, il faut pas l'oublier. Donc c'est quand même un effort sur 40 années. Et 40 années, c'est pas rien quand même dans la vie d'un homme ou d'une femme.
Non, c'est vrai.
Bon, et l'effort finit par payer. On le voit aujourd'hui avec ces excellents résultats. Bon, il est 10h27, malheureusement.
Il ne faudrait pas que les évolutions récentes...
C'est ce que vous voulez dire, Sylvie. On n'a pas le temps de parler, malheureusement, des véhicules autonomes On y reviendra très prochainement dans l'émission. Merci à tous les trois, Sylvie Matera, Frédéric Farah et Marcus Kerber, pour cette émission animée, passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business. On se retrouve demain, 9h30. Notez bien ce nouvel horaire, 9h30, 10h30, mais toujours en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.